Tu es Gilles et tu travailles au CSA ?
Oui, au Centre de Recherche Scientifique. Et donc j'interviens, entre autres, au niveau de la planification d'Auroville, dans la cellule qui concerne l'eau en général pour Auroville.
J'ai cru comprendre que la ville allait manquer d'eau dans quelques années. Tu peux nous en dire un peu plus ?
Ce qui s'est passé, c'est que quand l'Inde est redevenue indépendante, le gouvernement a très rapidement décidé, compte tenu des problèmes d'alimentation de la population, de lancer la Révolution verte. La Révolution verte a été axée sur l'utilisation de semences hybrides et sur la culture agricole industrielle pour assurer la production alimentaire. Donc culture hybride veut dire développement de l'industrie chimique pour produire des fertilisants et des pesticides, parce que c'est des espèces qui sont fragiles, et garantir un accès à l'eau suffisant, parce que c'est aussi des variétés qui sont sensibles au manque d'eau, beaucoup plus que les variétés traditionnelles qui avaient été adaptées sur des dizaines et des centaines de générations. Et donc, en parallèle avec la mise en place de ce type de culture, a été développée l'industrie agricole. Et comme il fallait de l'eau, et qu'on ne savait pas très bien comment faire, le gouvernement a décidé, à travers l'Inde entière, de donner l'électricité gratuitement aux fermiers pour qu'ils puissent pomper de l'eau du sous-sol. Sachant que, jusqu'à la Révolution verte, les eaux souterraines n'étaient pratiquement pas exploitées. Il y avait quelques puits pour l'alimentation d'eau potable, évidemment. Il y avait quelques puits qui étaient aussi pour l'irrigation, mais qui fonctionnaient avec des animaux pour remonter l'eau. Mais sinon, c'est tout, il n'y avait rien d'autre. Et donc, on peut dire, plus ou moins du jour au lendemain, l'accès à l'eau souterraine est apparu. Le résultat, alors évidemment, la Révolution verte, ça a mis du temps à se mettre en place. On en a vu le plein effet que début des années 80, bien que ça a été lancé 5 ans avant. Donc, au début des années 80, et ça, on l'observe très bien dans notre région, la totalité des nappes a commencé à chuter, mais d'une façon absolument incroyable. Donc les nappes principales dont on dépend à Auroville, qui sont évidemment pas uniquement propres à Auroville, mais partagées par une population beaucoup plus importante, beaucoup plus large en termes d'espace, ont chuté de façon absolument dramatique. Tellement que une des nappes principales, qui est très, très importante, qui commence à peu près située à Auroville et qui descend jusqu'à 200-250 km au sud, est en train d'avoir des intrusions salines massives tout le long de la côte, et qu'une autre nappe beaucoup plus profonde est aussi en risque d'intrusion saline. Donc c'est le scénario dans lequel on est. Comme Auroville ne dépend que des eaux souterraines pour son alimentation, il est temps qu'on change de stratégie. Changer de stratégie, ça peut être plusieurs choses, mais on sait aujourd'hui, en ayant regardé un peu tous les potentiels, qu'il n'y a pas une seule ressource qui permettrait de garantir un accès à l'eau intelligent pour Auroville aujourd'hui, pour les populations, pour la croissance de la population, et pour les villages alentours. Alors ce qu'on propose, c'est essentiellement d'étudier le potentiel de chacune de ces ressources-là, parce que même par exemple si l'eau souterraine est en cours de salinisation, ça ne veut pas dire qu'on peut rien en faire, on peut quand même faire quelque chose si on travaille avec intelligemment. Donc d'étudier les différentes ressources potentielles et de les combiner de façon aussi intelligente que possible en tenant compte du climat, des variations climatiques, des besoins en termes de population, etc. De telle manière à ce qu'on puisse vraiment garantir un accès à l'eau, quel que soit le scénario. Donc aujourd'hui, on identifie 4 sources principales d'eau. Il y en a une qui est évidente mais qu'on utilise pas dans Auroville aujourd'hui, on l'utilise que pour faire de la recharge, de recharger les nappes phréatiques, c'est les eaux de pluie. Aujourd'hui, on ne stocke pas directement l'eau de pluie, ou extrêmement peu dans Auroville. Cette eau est par contre extrêmement bien captée et rechargée dans la nappe. Donc on peut dire, bon, c'est super. Le problème qu'il y a, c'est que comme cette nappe, il n'y a pas que nous qui pompons dessus, et que nous, on représente une goutte dans l'océan par rapport à ça, l'effet positif de tout le travail qu'a fait Auroville en termes de régénération de l'environnement, et entre autres de protection des ressources en eau, de recharge de la nappe, etc., est complètement balayée par la consommation extérieure. La consommation extérieure, aujourd'hui, elle est de l'ordre de 20 à 25 fois la recharge. L'extraction des nappes souterraines est de l'ordre de 20 à 25 fois la recharge. Donc évidemment, ça ne peut que s'effondrer, que descendre à vitesse grand V. Donc les eaux de pluie, comment les capter, comment les utiliser ? Une deuxième possibilité, c'est désaliniser l'eau de mer, par exemple. Bon, maintenant, désaliniser l'eau de mer, ça pose un certain nombre de soucis, parce que c'est très demandant en termes d'énergie, que c'est un produit, finalement, l'eau désalinisée, c'est un produit de luxe, on fait de l'eau minérale, quoi, en gros, enfin, de l'eau, je veux dire, l'eau de boisson qu'on peut mettre en bouteille directement avec. Donc, il faut bien garder à l'esprit que ça vaut pas le coup de faire une eau d'une qualité pareille si c'est pour arroser ou pour d'autres besoins comme ça qui n'ont pas besoin de... auxquels il n'est pas nécessaire d'avoir une qualité d'eau aussi importante. Et puis d'autre part, ça pose un vrai problème, c'est que installer une usine de désalinisation, bon, ok, investissement, énergie, etc., ressources humaines, tout ce qu'on veut, bon, d'accord, tout ça, ça doit être compris et inclus, mais le problème principal, c'est pas celui-là, c'est que si on donne de l'eau de qualité potable à une population, et puis que tous les gens qui sont autour n'y ont pas accès, alors qu'ils souffrent encore plus que nous de cette situation, est quelque chose qui est totalement ingérable. Évidemment, c'est inacceptable moralement, mais je parle pas de ça, je parle du fait tout à fait pratiquement, on peut pas créer des situations comme ça, parce que évidemment, les populations locales vont se révolter en disant, attendez, nous on va faire un trou dans votre tuyau, puis on va s'en servir. Point. Donc, c'est pas une stratégie qui est très... si elle n'est pas combinée avec d'autres solutions, et on peut pas alimenter la population du monde entier, parce que où est-ce qu'on s'arrête ? Auroville, les villages autour, Pondichéry, Tata, bon, on s'arrête tout, mais à un moment donné, donc on peut pas, on faut être aussi un peu raisonnable. Une autre possibilité, en fait, c'est de considérer qu'en fait, l'eau devenant salée dans les nappes, bah, c'est très facile, en proportion, de désaliniser de l'eau salée dans les nappes que de désaliniser de l'eau de mer. Tout simplement parce qu'elle est, elle est beaucoup moins salée et que d'autre part, elle est, disons, beaucoup plus propre que l'eau de mer. Donc ça peut être une option. L'autre option, c'est pas une ressource première, mais c'est une ressource secondaire, c'est d'aller aussi loin qu'on peut, d'une part, en termes de recyclage de l'eau. On sait maintenant très bien faire ça et c'est extrêmement intéressant comme potentiel. Réduire la consommation d'eau fraîche, en quelque sorte, par le recyclage. Et d'autre part, on peut aussi réduire la consommation d'eau fraîche en installant de façon très très systématique des systèmes donc de réduction de la consommation. Donc ça nous donne une espèce de vue d'ensemble comme ça. Alors après, évidemment, il y a des choix à faire, par exemple, la façon dont on va développer l'urbanisme, la façon dont on va équiper les bâtiments, la façon dont on va équiper les installations individuelles de logements, etc., va complètement conditionner jusqu'à où on peut aller. Par exemple, si on parle de recyclage, bon, on peut faire de l'eau potable avec de l'eau usée, avec des eaux de toilette, on sait le faire. Bon. Maintenant, il y a un blocage psychologique qui est tellement important que c'est pratiquement inacceptable où que ce soit dans le monde. Même si on sait le garantir que c'est propre. Bon. Donc, c'est le genre de... Je pousse un peu le bouchon un peu loin, mais jusqu'à où est-ce qu'on peut aller dans ce genre de stratégie en restant tout à fait cohérent par rapport au niveau d'acceptation possible d'une solution et par rapport à des côtés tout à fait pratiques aussi, parce qu'on peut faire, on peut inventer des choses absolument incroyables, mais si c'est pas financièrement ou humainement, c'est pas acceptable, bon bah le problème se pose même pas. Donc faut rester très très terre à terre et très cohérent par rapport à ça. Donc ça, c'est un petit peu la vue d'ensemble en ce qui concerne les différentes possibilités de ressources et comment en fait on pourrait travailler avec. Sachant que on doit, dans le contexte d'Euroville, on est quand même toujours obligé de garder en tête que quoi que ce soit qu'on fasse, au minimum, il ne faut pas que ça crée une nuisance pour les populations alentours, et si possible, au contraire, que ce soit un bénéfice pour les populations alentours. Alors la forme du bénéfice, je sais pas, ça, enfin je sais pas, je veux dire, on peut en discuter, il y a plusieurs possibilités. Ressort comme offrant un potentiel vraiment intéressant et qui demande un vrai travail d'intégration, c'est pas de dessaler de l'eau ou de recycler l'eau, parce que ça c'est des réponses techniques qui correspondent à ça, même si là aussi il y a beaucoup de choses auxquelles on doit réfléchir pour le faire de façon vraiment adaptative, parce que Euroville, bon, bah, on n'est que 2500, combien de temps ça va mettre à croître, on n'en sait rien, qu'est-ce qui se passe autour, on ne sait pas, etc. Mais ça c'est des réponses techniques. L'eau, les eaux de pluie, c'est beaucoup plus complexe quelque part, parce que soit on aborde le sujet au niveau individuel, c'est-à-dire on a un bâtiment avec un certain nombre de logements, ou des administrations, ce qu'on voudra, des écoles, et on capte l'eau localement, on la réutilise localement. Maintenant, c'est pas forcément une solution qui est adaptée, parce que, bah, par exemple, une école, il peut y avoir des surfaces de bâti très importantes sur lesquelles on peut potentiellement collecter l'eau, mais le besoin d'une école en termes d'eau, c'est très faible. Donc qu'est-ce qu'on fait avec ça? Est-ce qu'on dit, bah tant pis, ça a évacué quelque part ailleurs? Bah oui, on peut aussi faire ça, mais ça veut dire que c'est des ressources qui sont perdues, or on en a besoin. Donc on peut effectivement penser à des solutions individuelles, mais c'est très difficile à interconnecter, parce que comment est-ce qu'on fait pour connecter des centaines de bâtiments ensemble sur un réseau où là où il y a de l'eau qui est collectée à partir des eaux de pluie, on puisse la récupérer, et puis là où on a besoin, on puisse l'envoyer? Ça devient un casse-tête absolument épouvantable. Donc on peut faire des choses comme ça localement, mais ça répond pas vraiment au problème. Il y a une autre façon d'aborder le problème, c'est juste regarder comment finalement les anciens dans le coin ont travaillé, en l'adaptant à un système urbain. Donc dans ce cas-là, l'idée c'est de dire, au fur et à mesure que la ville va se développer, on va avoir plus en plus de surfaces qui seront bétonnées, qui seront imperméabilisées. Et donc potentiellement, on a beaucoup plus de ruissellement qu'on aurait sur une surface enherbée, ou une forêt, ou une pâture, ou n'importe quoi, une culture. Donc, en développant l'urbanisation, on développe en fait énormément le volume d'eau qui est généré par le ruissellement. Et c'est pour ça qu'en général, un des éléments clés auxquels font attention les ingénieurs quand ils s'occupent d'urbanisme, c'est de faire attention à éviter les inondations. Parce que c'est un élément clé. On sait qu'en imperméabilisant le sol, en construisant dessus, je veux dire, on va générer des volumes extrêmement importants d'eau pendant les périodes de pluie, et qu'il va falloir les évacuer sans que ça inonde tout le monde, si c'est possible. On ne sait pas toujours le faire. Hein. On sait bien que des fois, on n'arrive pas. Bombay a été complètement inondé. Enfin bref, il y a plein la planète des choses comme ça. Mais bon, c'est quand même l'objectif. Mais une autre possibilité, c'est de dire, bah non, on ne cherche pas seulement à évacuer, on cherche à récupérer cette eau. Et en fait, il y a un potentiel extrêmement élevé. Le volume d'eau qu'on peut récupérer dans un endroit comme Auroville, tel qu'il est conçu aujourd'hui, est extrêmement important. Donc l'idée, c'est de dire, comment est-ce qu'on peut faire pour capter cette eau, sachant que un des problèmes, c'est de contrôler la pollution, par exemple, parce que suivant le mode de vie qu'on aura dans cette ville, on peut avoir plus ou moins de problèmes de pollution. Notre problème, c'est qu'on va récupérer un tas de poussière et de choses comme ça dans l'eau, donc si on veut pouvoir la stocker, comment est-ce qu'on la stocke pour que ça reste esthétiquement acceptable, etc. Et donc, en fait, l'idée qui m'est venue en regardant de plus près le profil, la topographie d'Auroville, c'est que en fait, on peut relativement facilement collecter des volumes d'eau extrêmement importants. Et en fait, l'idée qui m'est venue, c'est que parmi les éléments qui font partie du concept d'Auroville, l'idée, c'est qu'il y ait un lac assez important qui soit développé autour du matrimondien. Et donc, l'idée, c'est de faire en sorte que ça devienne... D'ailleurs, c'est un des critères de base de ce lac, c'est que ça n'ait pas qu'une fonction esthétique et symbolique, mais que ça ait une vraie fonction concrète. Et donc, en fait, en regardant de près, pourtant on pourrait croire que le matrimondier est tout en haut d'Auroville, mais c'est pas le cas. En fait, il y a un potentiel très important de captage donc des eaux de ruissellement sur ce point. Donc l'idée, c'est de dire, est-ce qu'on pourrait développer des canaux bien dessinés, paysagers, agréables, et qui aient une vraie fonction, de telle manière à ce que l'eau ruisselle sans aucun équipement technique, sans pompe, sans mécanisme, vers ce point, de telle manière à ce qu'au moins on puisse la récupérer sans effort aucun, à part que de celui d'utiliser la gravité, ça ne coûte rien, et en faisant donc en sorte que Auroville soit un petit peu partout équipé avec des canaux qui ne seront pas pleins d'eau, ils seront pleins d'eau qu'une partie de l'année quand il pleut évidemment, mais qui permettraient vraiment de collecter un volume d'eau extrêmement important et d'amener un élément paysager urbain extrêmement fort, parce que qu'il y ait de l'eau ou pas, quelque chose qui sinue quelque part à travers des zones urbanisées, c'est un caractère fort, et ça peut être extrêmement attractif si c'est bien fait, pour plein de raisons. Et d'autre part, ça peut vraiment amener un élément de cohésion sur les modes de vie, sur tous ces éléments-là qui sont vraiment importants et intéressants. Maintenant, donc quand on regarde ça de ce point de vue-là, on pose tout de suite la question de dire, ok, est-ce qu'on est prêt, et jusqu'à quel point, à regarder où on en est de notre concept urbain, et pour intégrer ce genre d'éléments? Et c'est la grosse question. Pour moi, c'est la grosse question. C'est-à-dire que je pense que là où on en est de nos réflexions et de nos investigations, il y a vraiment un très gros potentiel, mais est-ce qu'on est prêt à revoir localement ou globalement comment ce genre d'éléments peut être intégré dans le tissu urbain pour que ça ait vraiment une fonction optimale, et comment ça va affecter en quelque sorte la façon dont on conçoit le dessin et comment on peut le faire évoluer. La question, est-ce qu'on, je pose la question parce que je sais que c'est comme ça qu'elle émerge. Est-ce qu'on est prêt à revoir le master plan? Ça ne veut pas dire que ça va le revoir dans le concept global du tout. Hein. Ça veut dire simplement que, tenant compte de ce genre d'élément qui est fondamental quelque part à l'urbanisme, ça veut dire être prêt à accepter qu'il y a des choses qu'il faudra revoir. Le positionnement des bâtiments, le réseau routier tel qu'il est précisément localisé, un certain nombre d'éléments comme ça, peuvent, peut-être marginalement, peut-être pas si marginalement que ça, être quelque part confrontés à ces problèmes d'eau. Donc comment est-ce qu'on travaille avec ça? Moi je trouve ça extrêmement intéressant, parce que là on est vraiment dans un domaine de recherche, de travail, de quelque chose d'innovant. Donc c'est pour ça que ça m'intéresse vraiment, en dehors du fait, bon évidemment, je travaille dans le domaine de l'eau, donc c'est des sujets qui m'intéressent. Mais là où je trouve ça vraiment intéressant, c'est qu'on peut vraiment créer une dynamique évolutive par rapport à où on en est d'un concept, où on en est de la réalité, et comment on va vers quelque chose où tout ça, ça se regroupe, et c'est, finalement ça crée une dynamique complètement innovante et qui peut être extrêmement porteuse en termes de qualité. Avec un autre objectif, en tout cas moi c'est quelque chose qui me tient à cœur, parce que c'est comme ça que j'aime travailler, c'est de dire, et on arrive à faire quelque chose de pertinent. Un autre intérêt qu'il y a, qui est à une autre échelle, c'est qu'on peut probablement arriver à développer une approche qui soit reproductible ailleurs. Et ça, je trouve ça extrêmement porteur aussi. Mais ça veut dire accepter de décloisonner un certain nombre de choses en termes de mode de fonctionnement. Ça veut dire accepter de revoir les choses, de les remodeler, de les repenser, de les revisionner pour aller dans ce genre de direction. Et ça, c'est ça que je trouve vraiment très intéressant dans cette approche. Sachant que moi, j'en suis arrivé là après des années d'observation, après des années de questionnement, à me dire, bon, ok, on veut faire un lac autour du Matrimandir, c'est bien gentil, mais enfin, étant bien placé par rapport à ce qu'on connaît de la situation de l'eau, je veux dire, j'ai quand même accès à quantité d'informations, j'ai travaillé beaucoup là-dedans depuis longtemps sur ce qui se passe localement. Je dis, vous êtes bien gentil, mais où est l'eau, quoi? Où est l'eau? Où est l'eau pour remplir l'œil? Parce que si on fait un gros trou et qu'il n'y a pas d'eau dedans, il vaut peut-être mieux pas faire un trou, quoi. Donc par contre, là ça peut vraiment jouer vraiment un rôle très très important. J'ai pas dit, encore une fois, que le lac répondait à tout, c'est très clair. Dans aucun cas, les eaux de surface, pardon, pour généraliser, il ne s'agit pas de bloquer sur le lac. Il y a d'autres options aussi. Les eaux de surface ne peuvent pas répondre à tous les cas, parce qu'on a des variations de pluie annuelle qui sont extrêmement importantes. Le minimum, c'est la moitié des pluies moyennes annuelles, le maximum, c'est le double. Donc c'est énorme comme variation. Donc dans tous les cas, on est obligé de faire accès à des ressources multiples. Mais en soi, c'est déjà extrêmement intéressant. De la même façon que, en France, puisque je parle français aujourd'hui, focal, c'était on fait du nucléaire point la ligne, avec quelques petits trucs annexes à droite à gauche, il y a pas mal de barrages et de choses comme ça, mais enfin bon, le gros de la massif de la production, c'est le nucléaire. Or aujourd'hui, en termes de stratégie, je parle même pas des aspects nuisibles ou néfastes ou controversés du nucléaire, parce que ça fait évidemment partie du sujet, mais je parle juste de la production d'énergie. On sait très bien que c'est une erreur de mettre tous les œufs dans le même panier. Et c'est vrai pour tout, c'est vrai absolument pour tout. À partir du moment où on se limite à un choix en termes de ressources, à une orientation unique, on s'amène dans des situations qui, à court ou moyen terme, finissent par être complètement piégeantes. Et le problème, c'est que faire marche arrière après par rapport à ça, c'est le cas du pétrole. Je veux dire, on a installé un système économique, technique, de mode de fonctionnement de la société qui est tellement ancré sur le pétrole que de revoir ça, ça prend le temps que ça nous prend pour l'instant. Et sachant que en même temps, on observe des dérives qui ont un impact très très important sur un tas de sujets. Donc réchauffement planétaire, des choses qui peuvent paraître très loin de ce que c'est que d'extraire du pétrole. Donc de la même façon, focaliser uniquement sur un seul type de ressource en eau, de toute façon, c'est pas viable à moyen terme. Donc essayons de voir comment est-ce qu'on peut concevoir quelque chose d'intelligent. Ce qui est intéressant dans ce genre de démarche que moi je trouve intéressant, c'est que, évidemment, techniquement, c'est amusant parce qu'on fait plein de trucs en même temps, mais c'est pas ça qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse le plus, c'est l'aspect justement qui nous oblige à nous dépasser et à revoir la façon dont on conçoit les choses ordinairement. Ordinairement, on dit, trouvons une seule source unique et puis à partir de là, c'est simple. Et encore aujourd'hui, dans Auroville, il y a des gens qui poussent pour ce genre de solution unique. Maintenant, pourquoi ? Parce que je comprends ça comme ça, à un autre niveau qu'une analyse, disons, technique. Je comprends que le degré de remise en question que nécessite le fait de ne pas s'ancrer sur une valeur unique, mais de dire regardons toutes les possibilités, essayons de voir quel est le potentiel de chacune, et essayons de les faire travailler ensemble, parce que c'est là qu'on aura vraiment quelque chose de porteur. Pas seulement une vraie réponse, mais en plus quelque chose de porteur pour plus large que nos propres besoins. C'est pas forcément facile à envisager, ça demande une remise en question. Moi je trouve ça très intéressant, mais ça peut être questionnant. La prochaine étape, elle est quelque part définie. On a eu donc il y a quelques jours une réunion avec Monsieur Doshi, donc qui est le coordinateur du Tandem Development Council d'Auroville, donc la partie qui s'occupe donc de la coordination de la planification pour Auroville. Donc lui-même a dit, vous allez plus loin maintenant, lancez les études qui sont nécessaires par rapport à ça, c'est nécessaire maintenant. Donc la prochaine étape est déjà au moins validée, à savoir aller plus loin dans les études détaillées qui sont nécessaires pour arriver à quelque chose qui fonctionne, et en même temps, et surtout, mettre ensemble les différentes compétences nécessaires pour étudier ça à fond. Parce que, comme je le disais, c'est pas un problème d'hydrologie, c'est pas un problème d'ingénieur, enfin, même si ça fait partie évidemment des sujets qui doivent être étudiés à fond, mais c'est tout ce qui concerne aussi l'urbanisme, les aspects sociaux, les aspects écologiques, les aspects de viabilité économique, la durabilité dans le temps, les impacts potentiels sur les populations positives ou négatives, des populations aux entourants ou à plus grande échelle, et la reproductibilité de ce genre de solution. C'est ça qui demande le gros du travail, et surtout dans ces domaines-là. Comment on va pouvoir aborder tout ça d'une façon qui soit vraiment porteuse? Et tout ça en gardant en tête que ça doit être aussi partie, donc, comme je le disais, d'un concept plus large où les autres éléments, les autres ressources potentielles en eau sont complètement incluses. Parce que c'est là qu'on crée la dynamique qui devient une vraie solution. Donc c'est tout ça qui doit être maintenant consolidé. Donc il n'y a plus qu'à, quoi. ça n'a rien de révolutionnaire. Ce qui est différent, c'est qu'on n'est plus du tout dans les mêmes modes de vie, peut-être qu'avant les gens pensaient pas juste à leur lopin de terre, mais à ce qui se passe autour, et que c'était normal, en tout cas pour les gens qui s'occupaient de planifier, de voir les choses dans leur environnement, et que aujourd'hui on est allé très loin de ça, quelque part dans le monde, de cette approche d'un élément dans une globalité. Et que c'est quelque chose qui maintenant nous pousse aux fesses, quoi. Il est grand temps de réintégrer ce genre d'approche, on le sait. Je veux dire, une ville se développant, par exemple, aujourd'hui, va se développer exponentiellement, et c'est la chasse permanente aux ressources pour pouvoir alimenter en nourriture, en eau, en électricité, etc. Et donc ça agit comme une gigantesque pompe qui va drainer des ressources colossales loin, 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 à plusieurs centaines de kilomètres, pour pouvoir garantir que cette ville vive et puis se développe, et puis s'étende, et puis ça continue, ça ressemble... c'est monstrueux, quoi, quelque part. Alors évidemment, derrière, ça génère des richesses économiques, etc., etc. Mais ça a aussi plein d'aspects négatifs. Les aspects négatifs étant essentiellement liés au fait qu'il n'y a pas de vue globale de ce que c'est que cet endroit, une maison... Un lotissement, une ville, une mégapole, dans son contexte. Comment on va faire en sorte pour que ça fonctionne, quoi, que ça vive et que ça puisse continuer à évoluer sans que ça devienne un truc à se jeter par la fenêtre, quoi. C'est un problème de sagesse. C'est un problème de sagesse politique, quoi. Dans le sens où, pour plein de raisons, la perspective du développement humain est finalement très peu présente. Pourquoi ? Parce qu'il y a des calendriers électoraux, parce qu'il y a des pressions économiques, parce que ceci, cela. Je ne dis pas que les gens qui gouvernent sont des imbéciles, mais ils sont obligés de travailler avec un calendrier. Donc, compte tenu de ça, développer quelque chose sur une perspective à long terme, en essayant vraiment de à la fois garder à l'esprit que l'important, c'est de garantir quelque chose qui soit positif et sain sur le plan social, et en même temps de garder en tête que vu on ne peut pas maîtriser l'évolution, les changements, qui de toute façon il va s'en produire, ça nécessite d'avoir une vision sur 20 ans, 50 ans, 100 ans, 200 ans, je sais pas, quelque chose comme ça, où on n'est plus du tout dans les mêmes perspectives de temps que juste ce qui se passe aujourd'hui, demain ou dans 3 ans, dans 5 ans, parce qu'il y a un calendrier électoral. Et que le calendrier électoral demande, c'est pas le seul facteur, hein, enfin bon, que ce qu'on regarde du côté économique ou qu'on regarde du côté des décisions politiques majeures, etc., on voit bien que y a une compression absolument incroyable par rapport au sujet d'attention. C'est plus du tout dans le long terme. Là, il y a le Rio plus 20 là, qui vient se produire donc, sur l'environnement. Bon, on peut dire que c'est un fiasco total. Pourquoi ? Parce que aujourd'hui, l'intérêt des dirigeants, c'est pas de dire garantissons quelque chose qui soit sain et durable et qui améliore la qualité de vie de la planète. C'est de dire on est dans la mouise économiquement et le reste, ça nous intéresse pas beaucoup, quoi. C'est tout. Donc, considérant que finalement, ce genre de sujet, le bien-être humain, quoi, disons, de façon globale, finalement, c'est pas un sujet de préoccupation au premier degré. Ça vient une fois qu'on a réglé d'autres sujets, ceux qui peuvent paraître secondaires d'un autre point de vue, quoi. Est-ce que chacun prend le temps de regarder vraiment qu'est-ce que ça pourrait être que le bien-être ? Est-ce que chacun prend le temps de vraiment considérer où est-ce qu'il en est de la reconnaissance de ses propres besoins et de la reconnaissance qu'il ne sait pas quels sont les besoins de l'autre ? Qui est riche historiquement et qui est en même temps complexe parce que les villages ont été complètement déstructurés sur le plan du mode de fonctionnement social pour plein de raisons. Mais le résultat pratique, c'est que le mode de gouvernance et de mise en partage des décisions tel qu'il était traditionnellement la responsabilité d'un conseil des sages qui était choisi par la population. C'est ça qui a garanti la pérennité sociale très longue, l'histoire de l'Inde est quand même extrêmement étendue dans le temps, ça qui a donc garanti la pérennité sociale de l'Inde. Aujourd'hui, ce tissu social, il est complètement défait, enfin pratiquement complètement défait. Ce qu'on appelait donc les panchayats ont été réactivés, mais sous une forme de gouvernance élective politique. C'est-à-dire le conseil des sages est devenu... se sont devenus des élus politiques, avec tout ce que ça veut dire que de rentrer dans un système politisé, d'élus, de pousser, de convaincre, éventuellement de corruption, enfin tout ce qu'on pourra trouver autour. Donc on n'est plus du tout dans le même modèle, c'est plus la personne référente n'est plus forcément la plus sage, c'est celle qui pousse le plus d'écoute, quoi. Bon, en gros, je simplifie, et évidemment il y a des cas où c'est pas du tout comme ça, mais enfin c'est quand même le risque que ça pose, et ce qui se passe dans beaucoup de cas. D'autre part, en tout cas dans le Tamil Nadu, et dans l'Inde en général, mais très fort au Tamil Nadu, les familles étaient structurées autour d'une structure nucléaire. C'est-à-dire qu'il y avait, les grands-parents, les enfants, les conjoints, les enfants des enfants, les cousins, etc. Et tout ça fonctionnait d'une façon extrêmement cohérente, vivant sur le même lieu, plus ou moins, dans les mêmes lieux, dans le même bâtiment, et donc avec une très grosse notion de partage et de hiérarchie et de respect social qu'on retrouvait non seulement en termes de relations, disons, privées à l'intérieur d'une famille, mais qu'on retrouvait à travers toutes les strates de la société, hein, qui garantissait quelque chose qui était extrêmement stable aussi dans le tissu social, parce que chacun savait où il en était. Alors il y avait le système des castes qui venait surimposer aussi là-dessus, qui n'était pas forcément brillant par ailleurs, mais disons que ça crée une solidité sociale. Maintenant tout ça, ça a éclaté, bien ou mal, j'en sais rien, de toute façon j'en ai aucune... on est quelque part entre les deux, donc je saurais pas en parler, mais ce qu'on observe, c'est que tous ces modes de fonctionnement, d'appartenance, de groupement, etc., sont tous partout en Inde en train de se dissoudre, s'ils ne sont pas déjà complètement dissous. Donc on commence à avoir en Inde de plus en plus de personnes âgées qui sont plus pris en charge par leur famille, par exemple. Or, il n'y a pas de prise en charge sociale. Donc qu'est-ce qui se passe ? On retrouve de plus en plus de familles, de couples avec leurs enfants qui vivent isolés, ou loin de leur lieu d'origine, etc. Donc tout ça, c'est des modifications très importantes. Donc ce qui est clair, c'est que ce qui collait la société ensemble, qui la maintenait cohérente sur le plan de la dynamique sociale, c'est des faits. Bon, maintenant, il y avait des aspects statiques très importants qui avaient besoin aussi d'évoluer, parce que du coup, il y avait plein de choses qui ne bougeaient plus. Notamment la position des femmes, ça reste quelque chose d'extrêmement difficile et qui a vraiment besoin d'évoluer. Mais bon, en attendant, qu'est-ce qui va créer la cohérence sociale aujourd'hui ? C'est pas clair. On voit que ça change à toute vitesse. On voit que par rapport à ça, nous, en tant qu'Orovidiens, on a du mal à suivre, dans le sens où on a du mal à se rendre compte à quel point, où on a eu, disons, du mal à se rendre compte à quel point les choses changeaient vite autour de nous, et que du coup les comportements changeaient vite autour de nous, que le mode d'interaction changeait aussi extrêmement rapidement. Ça avait un impact direct sur ce qui se passait ici dans Orville. Mais bon, voilà, le fait est, c'est que tout ça, c'est en train de changer à toute vitesse. Qu'on n'est plus du tout dans un endroit très reculé, un plateau désertique avec des villageois en mode de survie depuis des générations. On est directement dans la banlieue de Pondichéry et c'est pas du tout pareil. C'est pas du tout pareil. On est directement dans une atmosphère de banlieue. Certains aspects peuvent être intéressants, d'autres un petit peu limite de ce qui se passe en zone urbaine. Et que la façon dont l'Inde se développe autour de nous, évidemment, c'est à une échelle et avec une puissance qui est extrêmement importante. Et donc voilà, ça va vite. Et puis il y a une telle énergie derrière que ça attend pas spécialement notre bon vouloir pour se manifester. Donc il y a certains éléments qui sont assez effrayants, quoi. Enfin effrayants, dans le sens où ça nous demande là encore de nous ajuster, de pas rester sur ce qu'on a pensé, décidé, rêvé. Il y a 40 ans, il y a 30 ans, il y a 20 ans, il y a 10 ans, mais sur qu'est-ce qui se passe aujourd'hui et maintenant. Et bon, bah là, voilà, c'est un petit peu, c'est demandant, quoi, évidemment, c'est pas facile. Il faut agir vite, et puis surtout, faut pas avoir peur de regarder ce qui se passe tel que c'est, en disant, faut s'y confronter, c'est-à-dire, c'est comme ça, c'est comme ça, donc aujourd'hui, c'est comme ça, c'est pas comme c'était, c'est comme c'est. Et ça va vers quelque chose, je sais pas quoi, mais ça va vers quelque chose. Donc bien ajuster nos modes de comportement à cette réalité, pas à ce qu'on rêve être la réalité, mais à cette réalité. Parce que si on veut la conduire vers autre chose, c'est pas en partant de quelque chose qui n'existe pas qu'on va la conduire vers quelque chose qui existe. C'est un peu le contraire.